Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
Salut, salut, bienvenue à cette nouvelle saison de Sur la ligne, la cinquième déjà. Alex Régebal à votre compagnie, Nicolas Richard et Hugues Léger, je vous salue. C'est notre premier épisode de la cinquième saison, comme je le dis, une année 2024 qui sera bien remplie pour nous autres, on y reviendra. Mais d'abord et avant tout, je prends des nouvelles de mes collègues. Nico, comment te portes-tu? Bonne année, mon cher ami. Comment vois-tu ton année 2024?
Je l'envisage avec beaucoup de tennis, du moins on l'espère. Ça a commencé fort avec l'Australian Open. Je pense qu'à chaque année, ça commence un peu à chaque fois sur les chapeaux de roue, ces débuts d'année avec ces heures de sommeil qui sont très facultatives dans ce genre de tournoi qui se passe dans l'autre hémisphère complètement. Mais je nous souhaite, du beau tennis canadien, mais surtout un bel Omnium Banque Nationale. On sait que ça s'en vient plus tôt qu'on pense, semaine dernière, même si... en tout cas, on espère un Omnium peut-être plus ensoleillé que celui qu'on a vécu la dernière fois.
Ben écoute, on se le souhaite aussi. Puis Nico, je tiens à te remercier personnellement aussi parce que toi et moi, ben on a parti ce projet-là il y a 5 ans. C'est notre 5e saison. Alors pas loin de 5 ans. Et toi et moi, ben on est là depuis le début. Et puis ben ça me fait bien plaisir de commencer cette nouvelle saison-là avec toi. Un autre qui est avec nous presque depuis le début, il est arrivé pas trop longtemps après les débuts. Hugues Léger, bonne année. J'espère que tu te portes bien. Comment vois-tu ton année 2024, mon cher ami?
Content de vous retrouver, les gars. Mon année 2024, ben effectivement, ça commence fort déjà à Tennis Montréal. Toutes les activités ont repris là, le week-end dernier. Notre premier tournoi vétéran, la série Masters vétéran, s'est conclu le 7 janvier dernier. Donc, ça repart très fort. Puis avec la Coupe Davis qui s'en vient, il y a déjà beaucoup, beaucoup d'actions au stade IGA où je suis en ce moment. Là, donc, ça se présente bien pour cette année.
Tournoi à jouer à l'extérieur?
On pourrait faire un tournoi en patin. Vous avez peut-être vu ça sur YouTube, hein, les matchs de tennis en patin, mais non, c'était joué à l'intérieur, bien au chaud.
On pourrait se faire une classique hivernale sur la ligne. Ça pourrait être un bon projet. Là. On pourrait s'associer avec peut-être, je sais pas, le Canadien. On se trouve des gros partenaires, puis on se fait une classique hivernale sur la ligne.
Vous en pensez quoi? Station, été comme hiver.
Ouais, voilà. Je disais que 2024 va être une grande année. On va parler de tennis assez rapidement, mais on a de grosses nouvelles à annoncer. Hugues, je commence avec toi parce que on a une nouvelle association avec Cogeco Media, puis on est bien, bien fiers de ça, puis on est vraiment très contents de cette association-là. Peut-être nous donner plus de détails sur la nature de l'entente, puis qu'est-ce que ça va changer pour le Radio Podcast à venir.
Ben, ce qui est le fun, c'est que notre portée continue d'augmenter année après année. Les gens qui nous suivent, qui nous écoutent, notre audience augmente. Et ça a attiré l'attention de certains diffuseurs, notamment Cogeco. Donc, on est très content d'amener sur la plateforme C23, donc la plateforme de podcast du 98.5 et de tout le réseau Cogeco, là, le podcast sur la ligne, podcast officiel de Tennis Canada, je le répète. Donc, on rejoint des podcasts très connus, comme ceux de Martin McGoyeux, Martin Dubé, de Pierre-Yves McSween. Donc, on est dans une famille de grands talents et qui va continuer de nous donner accès à un plus grand public et à un public qui est friand de tennis aussi. Donc, c'est une belle association qui fait partie d'une entente à long terme aussi entre Tennis Canada et Cogeco. qui devient le partenaire donc de diffusion radio officielle de l'Omnium Banque Nationale. Et par le fait même, nous aussi, on étend notre collaboration avec Tennis Canada pour une durée de 3 ans. Là. Donc, on est vraiment bien en selle pour vous continuer de vous amener toutes les nouvelles du tennis semaine après semaine. On est bien content de cette entente avec Cogeco. Donc, ça va être le premier podcast que vous allez entendre, celui qu'on capte aujourd'hui, lundi, donc le 15 janvier, en plein Open d'Australie. Et voilà, première grosse annonce de la saison.
Ouais, et on est très, très fiers de cette annonce-là. Il y aura une certaine transition, là. Vous allez retrouver quelques épisodes sur nos plateformes si vous nous écoutez depuis le début. Et on sait qu'on a notre base de partisans, de fans, ouais. Et on le sait plus que jamais. Il y aura quelques épisodes, mais éventuellement, plus tôt que plus tard, ce sera uniquement sur les plateformes de C23, du moins pour la version audio.
C'est important que tu le dises, Alex, mais de toute façon, ceux qui nous écoutent sur Spotify, sur Amazon Music, sur Apple Podcasts vont aussi retrouver le podcast là où il était. C'est juste qu'il va être hébergé là,
par C23.
Par C23, mais on sera encore sur toutes les plateformes.
Oui, exactement. Vous pourrez l'écouter sur votre plateforme de choix, en effet. C'est simplement qu'il faudra passer par C23, mais ce sera effectivement sur toutes les plateformes. Vous allez pouvoir potentiellement entendre des extraits, des épisodes dans certains radio aussi, ça fait partie de l'entente. Cogeco a beaucoup de radios. Alors, soyez pas surpris si vous entendez des passages de sur la ligne, si vous êtes dans votre voiture, que ce soit peut-être au 98.5,
96.9. Moi, je pense que tous les faits saillants de Nicolas Richard, ces citations de la semaine vont apparaître dans les émissions à grande écoute sur les ondes radio.
Ben honnêtement, j'ai souvent dit que Nico était le maître de la clip. Alors Nico, t'as de la pression cette année pour pouvoir nous amener des clips savoureuses comme seul toi sais le faire, peut-être avec notre nouveau partenaire Cogeco.
Ce sera que des quotes d'une phrase entre la météo et la circulation le matin autour de 7h30. Alors soyez aux aguets.
Oui, voilà, avec toujours beaucoup d'émotion et de passion. Alors, ben voilà, c'est l'annonce qui est faite, on est vraiment très, très fiers de ça. C'est aussi dire la qualité, je pense, que du travail qu'on a fait et développé dans les 4 dernières années, parce que ben on s'est fait approcher par un partenaire majeur, puis ben c'est une offre qu'on pouvait difficilement refuser, mais ce n'est pas notre seul nouveau partenaire, mon cher Hugues, et ça, c'est une grosse nouvelle, et je pense que les trois, ben on en est quand même très fiers, même si Nico, tu seras pas directement impliqué dans cette deuxième partie-là, mais il reste qu'on est trois anciens de TVA Sport, et puis ben on a signé une entente, puisqu'il y aura une version télévisuelle hebdomadaire. Ouais. De sur la ligne.
Ben, pour ceux qui ont vu le bilan de l'année 2023, notre revue de l'année avec Félix Auger-Aliassime, Leila Fernandez notamment, Valérie Tétrault, ben, c'était déjà à TVA Sport depuis le 4 janvier. Donc, on est en onde sur TVA Sport. C'était sur TVA Sport 2 durant les vacances des fêtes. Mais oui, on a une version télé qui est maintenant accessible pour tout le monde. Ça va être dans la grille hebdomadaire de TVA Sport. Il n'y a pas de créneau spécifique encore annoncé, mais on sera là à chaque semaine quand même, au moins une fois par semaine. Et ça aussi, le fait d'avoir une version vidéo, c'est intéressant, évidemment, pour vous montrer des clips, que vous voyez nos invités. Pas tant pour que vous nous voyez nous, mais que vous ayez accès à ce contenu-là qu'on vous amène avec passion chaque semaine. Et il se passe tellement de choses ici au Centre national qu'on aura l'occasion de vous présenter du très, très beau contenu. Donc, on est non seulement avec Cogeco pour le volet audio, mais avec TVA Sport pour le volet vidéo, et on en est très, très fiers.
Ouais, et honnêtement, moi, ça me fait un petit pincement en particulier, et je le dis positivement parce que j'ai contribué, moi, à bâtir cette chaîne-là, à l'ouvrir carrément. Eux, que tu es arrivé pas trop longtemps après, mais moi j'étais là avant même qu'on rentre en onde, et ça me fait j'ai toujours été bien fier de contribuer au grand à faire naître et à grandir cette chaîne-là, et puis ben ça me fait un grand plaisir de continuer à y contribuer via un projet qui me passionne et avec des gens avec qui j'adore travailler. Alors ça me fait ben plaisir, et puis ben ce sont deux grosses nouvelles, hein, Cogeco et TVA Sport, là, c'est des partenaires majeurs, et c'est dire à quel point ben le travail qu'on a fait dans les 4 dernières années, ouais. Ben je pense qu'il a été apprécié, puis je veux vous remercier une fois de plus, les boys, parce que je suis bien fier de où on est rendu.
Ben, bravo à vous deux, les gars, d'avoir eu l'idée de commencer ce projet-là en 2019. Ouais. Et on est devenu, je dirais, la référence en termes de qualité, de profondeur, de fréquence de contenu. Écoutez, on produit plus de 50 émissions par année, n'oubliez pas ça. Donc, ceux qui veulent suivre le beat du tennis mondial sous toutes ses coutures, ben, c'est vraiment ainsi que ça se passe avec l'équipe de Sur la Ligne.
Là, messieurs, on va parler de tennis dans pas longtemps, parce que c'est notre mandat, comme j'aime le dire. On va revenir sur ce qui s'est passé en début de saison. Il y a eu déjà beaucoup d'actions. On va parler de l'Omnium d'Australie aujourd'hui. On va regarder certaines nouvelles aussi. Il y a des retours au jeu importants qui ont été faits dans les dernières semaines. On va parler de tout ça. Mais avant, le temps des fêtes, ça veut dire repos. Ça veut dire aussi souvent regarder les séries en rafale. Et puis là, il y en a une qui vient de sortir qui nous appelle directement. Messieurs, je veux vous entendre rapidement là, sur la deuxième saison de Breakpoint. On avait été critique de la première partie de la première saison. La deuxième partie de la première saison était mieux. Mais je suis curieux de vous entendre avant qu'on rentre dans le vif du sujet là, un petit peu plus léger. Là, Breakpoint, Hugues, je commence avec toi. Qu'as-tu pensé de cette nouvelle saison, écourtée par ailleurs, parce qu'il y avait 10 épisodes dans la première et il n'y en a que 6 dans la deuxième saison?
Ouais, je serais pas surpris qu'il y ait une deuxième partie aussi à la saison 2. Donc, début de la saison 2, tu l'as dit, Alex, avec 6 épisodes. Mon commentaire général, je pense qu'ils ont compris la formule pour accrocher le fan en général et le fan de tennis en particulier. On fait des parallèles sur des rivalités. Je pense à Medvedev, Zverev, je pense à Holger Rune, Alcaraz, je pense à Sakkari et Pegula qui vivaient une situation semblable, les fameuses joueuses qui arrêtaient toujours en quart de finale ou en demi-finale. Donc, je trouve que le storytelling, pour nommer encore ce terme-là, est nettement plus intéressant. C'est mieux filmé, on est plus près des personnages. Il y a vraiment une cohérence dans les histoires qui est vachement intéressante. Donc, je pense qu'ils ont fait un très beau boulot sur la deuxième partie, sur la deuxième saison de Breakpoint. Je l'ai regardé avec plaisir. Et c'était rigolo qu'ils reparlent du Netflix Curse.
Ben oui.
Qui était, bon, tous les joueurs ou presque étaient sortis dans la première semaine, dans la première version. Fait que c'est un élément qui fait partie là, de la première émission là, de la deuxième saison. Mais vraiment intéressant à voir avec un petit clin d'œil à Montréal. Et c'était le fun de voir Pegula gagner à Montréal devant un stade plein. Parce qu'on voit des fois des estrades un peu dégarnies dans Breakpoint, mais quand ils sont à Montréal, le stade était rempli. Ça traduit bien l'engouement qu'on a pour le tennis aussi. Mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette deuxième série qui se termine par le triomphe de Coco Gauff au US Open. Très bon travail de box-to-box, là, la maison de production.
Ouais, je suis d'accord avec toi, moi, de ce point de vue-là. J'ai trouvé qu'on est allé plus en profondeur dans les histoires. On a mieux établi. Il y a peut-être un peu moins de behind the scenes que dans la première saison. En tout cas, c'est mon premier feeling. Il faudrait que je mette les deux une à côté de l'autre puis je les regarde. Mais j'ai beaucoup mieux aimé, moi aussi, le storytelling.
Ouais.
Regarde, on va en reparler là, la semaine prochaine parce que je veux qu'on y revienne un peu plus longuement. Puis je pense que ça vaut la peine qu'on développe un peu plus.
On va décortiquer sur les épisodes, effectivement.
Mais moi aussi, j'ai adoré que on revienne d'ailleurs le premier épisode sur le Netflix.
Ah oui,
c'est vrai. J'ai trouvé que c'était non seulement brillant, mais intelligent. D'ailleurs, les titres étaient spectaculaires. Là, quand on suivait les Américains, puis on avait Friends or Foe.
Oui, oui.
C'était pour TFO. Alors, c'est spectaculaire. Nicolas, toi, as-tu eu la chance d'y jeter un coup d'œil? Je sais que tu aimes regarder les trucs en rafale. Là. Peut-être que tu te l'es gardé pour un peu plus tard. Là.
Je l'ai regardé. J'ai pris le 30 jours gratuit de Netflix pour pouvoir le regarder, les gars. J'aime, Alex, ce que tu dis sur le behind the scene qui est un peu moins présent. Puis c'est ce que j'aurais aimé voir un peu plus. C'est-à-dire que, en tant qu'amateur de tennis, en tant que commentateur de l'actualité tennis, on sait que Pegula a gagné à Montréal. On sait que Goff a gagné à New York. Mais je trouve que, vous l'avez dit, les joueurs et les joueurs se sont peut-être plus confiés, connaissant mieux le produit, connaissant aussi ce que Netflix voulait. Donc, je pense que si on avait pris ces confidences et le behind the scenes de l'an dernier, là, je pense qu'on a eu vraiment une série presque parfaite. Je fais ça un peu sur ma fin parce que, comme je vous le dis, en tant qu'amateur de tennis, ce sont des choses qu'on a vues, qu'on a même vécues. Mais le produit, il est bon. La seule chose que je me demande, c'est jusqu'à quand pourrons-nous presser le citron de ces joueurs et ces joueuses vedettes? Parce que, oui, c'est beau, présentement, on parle des Pegula que, vous savez, on adore ici, Sakkari, ce sont des joueuses vedettes. Mais à un moment donné, je me demande jusqu'à où on va pouvoir se rendre. Est-ce que vraiment Maria Costio et Arthur Fils font vraiment partie des gens qu'on voudrait voir ultimement, j'en doute. Je pense que dans le top 10, on a fait le tour pas mal. J'ai hâte de voir ce que ça va donner s'il y a une saison 3, par exemple, pour l'an prochain.
On va s'en reparler la semaine prochaine, Nico, parce que tu vois, je trouve ça. Moi, je pense pas qu'il y a un problème à ce niveau-là, mais on s'en reparle. Je veux pas trop étirer la sauce sur Breakpoint, là, puisqu'on a vraiment beaucoup de choses. Mais je pense qu'on s'entend tous les trois sur le fait que c'était largement supérieur à la première saison. Moi, pour vrai. Puis on est critiques, là, les trois, on a travaillé en télé, les trois, on a un background en journalisme, et c'est sûr qu'on va avoir un esprit un peu plus critique. Moi, je sais que quand je réussis à me laisser emporter par le documentaire sans trop me poser de questions, en général, c'est une méchante bonne nouvelle, et c'est ce que Breakpoint a réussi avec moi dans cette saison-là. Mais on va en reparler la semaine prochaine. De toute façon, il y a beaucoup de choses à parler par rapport à l'Australie, puis on pourra se parler peut-être des choses plus spécifiques, là, peut-être comme les commentaires de Jim Courier, ou, qui est très bon par ailleurs, oui. on s'en reparlera, comme on dit. Là, messieurs, là, parlons de tennis pour la première fois en 2024, puisque c'est notre mandat. On va revenir rapidement sur ce qui s'est passé au courant des deux, trois premières semaines d'activité. Et je dis, et j'insiste sur le rapidement, là, parce qu'on ne fera pas une analyse de tous les tournois, c'est pas vrai. Je veux quand même, par contre, qu'on parle de cette United Cup qui est une nouvelle formule, un nouveau tournoi. Je ne sais pas si vous avez eu le même feeling que moi, mais je n'ai pas eu l'impression que ça a attiré énormément l'attention en ce début de saison. J'ai pas l'impression que ça a soulevé beaucoup de passion. Est-ce que c'est parce que le Canada a été éliminé rapidement, a fini dernier de son groupe et a pas pu passer au tour suivant, là, si on veut? Je sais pas, Hugues, commentaire général là, sur la United Cup avant qu'on regarde rapidement les résultats.
Ben, bon, rappelons-le au niveau du format, donc une coupe par pays.
Mixte.
Bon, très bon point. J'allais justement sur ce point-là, qui est une initiative conjointe de la WTA et de l'ATP. Donc, ça, on sait qu'au niveau de la commercialisation, de la mise en marché des tournois aussi, on va tenter de rapprocher de plus en plus les deux circuits. Donc, ça s'inscrit dans cette lignée-là. Je pense que les joueurs aiment beaucoup cette formule-là comme tournoi de préparation pour l'Open d'Australie, parce qu'on le sait, tout ce qu'ils font à partir du 1er janvier, c'est en vue de ce qui va se passer à Melbourne après. Donc, ils sont tous garantis de jouer au moins deux matchs. Donc, déjà, ça, c'est intéressant. Si jamais tu fais un 250, tu perds au premier tour, ben, tu aurais joué un match seulement. Au moins, dans ce format-là, tu peux jouer deux tours. Après, deux matchs. Après, bon, effectivement, depuis quelques années, on s'est promené entre
la Coupe ATP.
Il
y avait le tournoi joué à Hobart il y a quelques années qui était un peu similaire à ça.
Exactement. Donc, je pense que les gens, encore une fois, au niveau du public en général, de l'audience télé, on cherche un peu à quoi s'accrocher encore. Est-ce que c'est une exhibition? Est-ce que c'est un vrai tournoi? Mais peu importe. Je pense que c'est un tournoi pour le fan averti de tennis qui veut savoir dans quel état sont les joueurs et supporter leur pays à quelques jours de l'Open d'Australie. Mais c'est quand même des pays très performants qui ont gagné. Tu vois que c'est des joueurs de haut niveau. Ouais. On retrouve du tennis de très, très haut niveau quand même.
Ben, Djoko y était.
Ouais, voilà. Et Leila Fernandez qui a poursuivi là où elle a laissé à la fin 2023 en jouant comme une leader au sein de cette équipe. Là. Donc moi, j'ai beaucoup aimé voir Leila en début de saison à l'United Cup.
Ouais, ben, tu fais bien de le dire. Elle a été, malgré la défaite contre la Grèce, elle a été vraiment très bonne en double. Elle a pris les choses en main pour le Canada. Ça a été de loin la meilleure joueuse. Bon, c'est un peu dommage. Peut-être que le résultat aurait été différent si Félix aurait joué. Félix était dû pour jouer cette compétition-là. Nous en avait d'ailleurs parlé dans notre épisode bilan de fin d'année. Malheureusement, elle n'a pas joué. Peut-être voulait corriger quelques petits bobos de dernière minute avant l'Australian Open et le tournoi qu'il a joué par la suite. Là. Mais peut-être que ça aurait été différent. Je ne sais pas. Moi, j'ai trouvé que cette compétition-là a manqué un peu de notoriété particulièrement en Amérique du Nord. Il faut dire que c'est bizarrement situé dans le calendrier. Là. C'est dur là, pendant le temps des fêtes, là, tout juste au retour là, du 1er janvier, d'avoir une compétition de ce genre-là.
Et tout le monde au Canada regarde le championnat junior de hockey. C'est ça qui est la tradition de la première semaine de janvier aussi. Donc, c'est plus compliqué de se faire une place quand c'est moins connu d'autre part. Là.
Exact. Mais de grands joueurs, il y a beaucoup de bons joueurs qui étaient là. Hubert Hurkacz était là, Swiatek était là. D'ailleurs, les Polonais sont en finale. Là, on y reviendra. Joko était là. Zverev, ben oui, et Zverev a particulièrement bien fait. Dominar aussi y était. Alors, il y avait beaucoup de grands joueurs. Là, ça, c'est intéressant de voir qu'il y avait beaucoup d'excellents joueurs qui ont accepté d'aller participer à cette compétition en début de saison. C'est finalement l'Allemagne qui l'a emporté avec Zverev qui a été spectaculaire là en finale contre la Pologne. Mais la Pologne avait toute une équipe quand même avec Hubert Hurkacz et Iga Swiatek. Là, c'est quand même difficile d'avoir une meilleure équipe que ça. Les Serbes avaient Novak dans leur rang. je l'ai dit. Il y avait beaucoup de bonnes équipes, beaucoup de bons joueurs également. Sans mentionner aussi que Vondrousova était là. Les Américains avaient quand même Taylor Fritz et Pegula aussi. Là. Alors, il y avait quand même beaucoup de joueurs intéressants, mais c'est l'Allemagne qui l'a emporté. Et moi, je trouve que c'est intéressant qu'on en parle parce que Zverev, il a été très bon dans ce tournoi-là et il est, à mon avis, certainement un des prétendants au titre en Australie, en dépit des blessures qu'il a suivies, mais en même temps, on pourrait y revenir là, peut-être plus en détail la semaine prochaine, mais il est quand même un des favoris contestés là, à cause de tout ce qui tourne autour de lui. Nico, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose sur la United Cup ou est-ce que pour toi, Hugues et moi, on a pas mal fait le tour?
C'est juste que pour moi, c'est d'aucun intérêt dans la mesure où dans la façon dont c'est placé dans le calendrier, j'ai l'impression qu'on essaie de nous le rentrer dans la gorge, même si on n'a plus faim. Dans la mesure où... Non, mais il y a quelques semaines auparavant, on a la Billie Jean King Cup, on a la Coupe Davis, et là, on s'attend à ce que les amateurs, comme Hugues le dit, dans un contexte du temps des fêtes où l'offre est gigantesque, qu'on continue de suivre le tennis, sachant pas trop qui est là. Tu l'as dit, Alex, est-ce que c'est de l'exhibition ou est-ce que c'est officiel? Je comprends rien de ce tournoi-là. Pour moi, il est d'aucun intérêt.
La question que tu soulèves, elle est intéressante. Et particulièrement en Amérique du Nord, écoute, j'ai pas une bonne connaissance de tout ce qui se passe en Europe au niveau sportif à cette période-là.
Il y a du ski, il y a du soccer.
Ouais, mais ici en Amérique du Nord, tu as les bowls des collèges américains, tu as toujours le football qui joue, tu as le championnat du monde d'hockey junior, la NBA. Encore là, la NBA. Alors, c'est très, très, très garni en termes d'offres sportives. Alors, et là, quand tu offres un tournoi qui est à des heures pas possibles pour en Amérique du Nord, en fait, j'ai l'impression que ça va être compliqué d'attirer l'attention. Puis c'est pour ça que mon commentaire en début d'intervention, c'était de dire je pense qu'il y a un certain manque de notoriété. J'oserais pas dire crédibilité, mais pas loin pour ce tournoi-là en début de saison. Mais commentaire intéressant, ça c'est sûr. Bon, autre chose dont je veux qu'on parle, messieurs, il y avait un certain Rafael Nadal qui était de retour. Oh Hugues, je commence avec toi, là, je te sens enthousiaste.
Moi, j'ai particulièrement aimé la campagne de Nike qui projetait le logo de Nadal sur les buildings. Donc, lors de son retour à Brisbane, j'ai dit, est-ce que Nadal est de retour pour sauver le tennis? Et entre parenthèses, du méchant Djokovic. Donc, un peu comme le thing de Batman quand on veut appeler Batman à la rescousse pour nous défendre contre le Joker. C'est un peu l'image qui m'est venue en tête. Donc, quel plaisir de revoir Nadal. On l'a vu s'entraîner depuis quelques semaines plus intensément avec des très, très bons joueurs. Il a notamment joué avec Arthur Fils, qui est le jeune Français en forme du circuit en ce moment, finaliste au final de la Next Gen, notamment. Donc, il s'entraînait solidement. Il avait l'air vraiment en forme. Il gagne son premier match contre Tim et... Ouais. Tout d'un coup, blessure encore une fois, inconfort à l'aine ou dans le bas de l'abdomen. Ce qui fait qu'il se retire de l'Open d'Australie. Mais bon, là, on pourra en discuter. Est-ce que c'était le bon moment pour revenir? Parce qu'on sait que lui, c'est Roland-Garros qui sera son objectif cette année, encore une fois. S'il veut faire un dernier coup d'éclat, ça sera Roland-Garros. Donc là, il met peut-être, il a hypothéqué peut-être une partie de sa saison avec ce retour-là. Mais bon, beaucoup d'excitation là, sur le retour de Rafael Nadal cette année.
Ouais, c'est quand même intéressant de voir qu'il a battu quand même Dominic Thiem. Bon, Dominic Thiem, c'est plus le grand champion qu'il était. On en reparlera un peu plus tard parce qu'il affrontait Félix Auger-Aliassime aujourd'hui. Mais il a quand même fait les quarts de finale, Rafael Nadal. Et si vous le voulez bien, je vous propose de l'écouter après son premier match disputé à Brisbane. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui était curieux d'avoir ses impressions. Les voici.
Monsieur, congratulations.
Thank you. Yeah, thank you so much. Thanks for the support since I arrived here. Today is honestly an emotional and important day for me. No, after probably one of the toughest years of my tennis career, without a doubt, have the chance to come back after a year and play in front of an amazing crowd and play, I think at the very positive level to be the first day is something that probably make us feel proud, no? To myself, to all the team, family that have been there every single day during the last year.
And that first set in particular, Rafa, with Dominic was such a high level. It felt like the second week of a Grand Slam. Both of you put on an amazing show of quality tennis tonight.
Well, I don't know, but I don't have a real test about how the level was. It had been too long outside. But I think the first set had been very equal, both of us serving well and winning more or less our serves. Very comfortable. And then I was able to have that break in that 6-5, no? So that makes the difference. And honestly, I know Dominic has been going through some hard times with injuries too. So happy to see him on court and I wish him all the very best for the season.
Alors, intéressant les propos de Rafael Nadal après son premier match. Dans un premier temps, on l'a senti vraiment émotif. Hein. C'est ce qu'il a dit, là. C'est un moment émotif pour moi. Ça a été peut-être l'année la plus difficile de ma carrière que j'ai vécue dans la dernière année. Alors, de le revoir au jeu, et je pense que vous l'avez entendu aussi, la foule, elle était très chaude à l'idée de revoir la légende sous ses yeux. Alors, je pense qu'il était content. Intéressant aussi, par contre, parce que, bon, l'intervieweur lui a demandé, bon, le premier set avait l'air d'une deuxième semaine en Grand Chelem. C'était de très haute qualité. Et Nadal a répondu, ben, je ne sais pas trop quoi en penser parce que j'ai été trop longtemps à l'extérieur du jeu pour pouvoir évaluer la qualité du niveau de jeu. Ça, messieurs, je trouve ça intéressant hein, parce que je pense que c'est lui qui est particulièrement modeste en disant ben, « je pense que je suis encore… » Il ne l'a pas dit comme ça, mais je pense que ça voulait dire « je suis encore capable d'aller une coche plus loin ». Nico, es-tu d'accord avec moi?
Oui, puis ça aurait été chouette de pouvoir le voir dans l'Open d'Australie, c'est-à-dire le premier Grand Chelem de la saison. Puis je voyais beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui disaient « mais pourquoi a-t-il été dans un tournoi, disons, de moindre importance alors que son objectif est de gagner des Grands Chelems? » Et à ça, je répondais « imaginez Nadal, qui n'a pas joué depuis des mois, arriver à froid dans le tournoi le plus exigeant physiquement et mentalement. La décision, je pense qu'elle était justifiée. C'est une malchance, on le sait, son corps, il est amoché, il vieillit, Nadal n'a plus 23 ans. Or, je pense que c'était la décision, mais ça aurait été vraiment chouette dans ces conditions où ça va très, très bien, surprenamment, ça va très, très bien, le voir en Australie. Mais ultimement, je ne sais pas trop quoi en penser, dans la mesure où Alex, ta question, oui, on aurait aimé ça le voir, mais c'est pas arrivé.
En gros, toi, ce que tu me dis, c'est... peut-être qu'il est capable d'aller une coche plus loin, mais il va falloir attendre de le voir un peu plus longtemps.
Oui, parce qu'on sait qu'il est capable de l'avoir, cette coche, parce qu'on l'a vu, les gars. Honnêtement, là, vous suivez le tennis autant que moi. Est-ce qu'on s'attendait à ce que Nadal réponde aussi bien à ses premiers matchs en Australie?
On n'avait aucune idée.
Exactement, c'était impossible de prédire. On ne pouvait être que surpris. On l'a été surpris. Ça aurait été chouette qu'il puisse transposer cette qualité de jeu en Australie dans le premier Grand Chelem de la saison. Bon, ça devrait attendre.
Il a mentionné que c'était une de ses années les plus difficiles qu'il avait vécues en carrière. Et je vous propose d'écouter une autre clip qu'il a fait à Brisbane. Et je pense que vous allez comprendre bien ce qu'il voulait dire.
If I thought about retirement during that period of time, of course, yes. I had to went through a lot of things to be back. So, and sometimes, of course, in the low moments, it's 100% human that you put yourself in a position to say, okay, it makes sense all the things that I have to do to be back at 37 years old, knowing that probably you will be back and you will not be healthy enough to compete the way that you wanted to compete. Something that, of course, I was asking to myself, but at some point, I decided to keep going. You know?
Alors, ce qu'il a dit, Rafael Nadal, c'est la dernière année, est-ce que j'ai pensé à me retirer? Évidemment que j'ai pensé à me retirer et c'est humain de le faire. Quand tu vis autant d'adversités, autant de blessures comme ça, t'as pas le choix de te poser la question si à 37 ans, tu vas être capable de revenir à un niveau de jeu suffisant pour pouvoir justifier de revenir à un niveau de jeu. Et Nico, ça rejoint un peu ce que tu disais il y a quelques instants. Mais il a quand même décidé de revenir et ça, je pense qu'on sent toute la passion et toute l'envie de jouer. Hugues, je te fais commenter rapidement sur le retour de Rafael Nadal. Qu'en as-tu pensé et que penses-tu de ces deux dernières clips?
Ouais, ben,
Je pense qu'il veut faire plus qu'une tournée d'adieu, premièrement. Je pense que sa façon dont il s'est préparé démontre qu'il veut compétitionner. Moi, je l'ai trouvé très humble dans sa réponse au journaliste qui disait que ça va être un match fantastique de très haut niveau avec Tim. Et Nadal qui répond, il dit « J'ai été arrêté tellement longtemps que je ne peux pas vraiment évaluer le niveau de qualité du match. » Donc, effectivement, on ne sait pas vraiment où il se situe. On ne l'a pas vu jouer contre des joueurs du top 20. Tout ça reste à voir. Mais moi, je pense que sa blessure qu'il a subie à Brisbane semble mineure. Il n'a pas parlé des mêmes problèmes qu'il avait historiquement. Je pense notamment à son pied, qui est un enjeu récurrent. Mais moi, je pense qu'on va le revoir tranquillement, probablement dans la saison de terre battue, peut-être en Amérique du Sud, avant de venir dans la série européenne qui commence à Monte-Carlo au mois d'avril. Et je pense que ce sera mieux peut-être comme ça. Donc, qu'il recommence plus doucement dans les prochaines semaines. Je pense pas qu'il s'en allait pour gagner l'Open d'Australie, même s'il était champion 2022.
Quoi qu'on
sait jamais. Ben, c'est exactement ce que je me disais avec Nadal. Quand à chaque fois qu'on disait que c'était un cas perdu, ben c'est là qu'il nous surprenait. Rappelons-nous cette finale d'ailleurs contre Medvedev en 2022, qui était sur le point de perdre après avoir perdu 2-7 et finalement il gagne le match. On sait jamais avec Rafael Nadal, c'est vrai, Nico. Mais moi, je suis plutôt même. Content de le voir revenir peut-être un petit peu plus tard et de se préparer tranquillement sur terre battue, qui est sa surface de prédilection, pour qu'il reste en forme pour faire un bout de l'année. Et peut-être qu'on pourrait le voir à Montréal par la suite même.
Ben là, c'est ça la question qui est intéressante et que tu sous-entends, Hugues, c'est de savoir quand est-ce qu'il reviendra? Est-ce qu'il se concentrera sur terre battue? Ce qui voudrait dire qu'on ne le verra pas avant un bon petit bout. Là. Ça voudrait dire qu'il ne jouerait peut-être pas le stretch Indian Wells Miami. Il l'a pas joué beaucoup dans les dernières années déjà. Est-ce qu'il va décider de se reposer pour arriver plus près du mois de mars pour jouer? Je ne sais pas, tu en penses quoi, toi?
Ben, les gars, vous savez que physiquement, les surfaces dures sont les plus difficiles pour le corps. C'est un sport à fort impact, le tennis. Donc, je pense que c'est peut-être plus sage d'être une surface un peu plus douce comme la terre battue pour lui. Moi, c'est peut-être ça que je retiens, surtout si j'avais à discuter avec son coach. Je serais curieux de l'entendre, et son entourage, son préparateur physique au niveau de la surface aussi. Mais je serais pas surpris qu'il évite peut-être un peu de jouer sur dur parce que ça pardonne pas. Ça punit le corps, les surfaces dures au tennis.
Nico, est-ce qu'on va le revoir plus tôt que plus tard ou est-ce qu'on va le revoir autour du mois de mars?
J'ai comme l'impression qu'il est dans le même état d'esprit que Tiger Woods, c'est-à-dire qu'il choisit ses tournois et ses tournois sont ceux où il pourra le mieux répondre.
Voilà.
Donc, la terre battue. Donc, pour répondre à ta question, Alex, je pense qu'on est mieux d'attendre quelques semaines, quelques mois avant de le revoir parce que il est dans un stade de sa carrière où Hugues le dit, je pense pas qu'il veut jouer les figurants, je pense qu'il veut gagner encore, prouver qu'il a encore sa place, mais pas à n'importe quel prix.
Et l'autre chose qu'il faut garder en tête à moyen terme également, c'est oui, il y aura Roland-Garros, mais Nico, tu es bien au fait qu'il y aura les Jeux olympiques également à Roland-Garros un peu après. Alors peut-être qu'il voudra faire les deux tournois et se garder une porte pour aller peut-être chercher une dernière médaille olympique dans sa carrière à la maison d'une certaine manière. Là. Alors il y aura peut-être ça à garder en tête, là, cette wild card-là des Jeux olympiques. Là. Ben, wild card, façon de parler. Là. Je ne l'ai pas dit en termes de tennis, mais en termes de choses à garder derrière la tête. Enfin. Intéressant, messieurs, on va faire une courte pause si vous le voulez bien. Et au retour, on va regarder quelques gagnants des dernières semaines et puis on va parler de l'Australian Open.
Si vous planifiez une escapade hivernale à Montréal, ne passez pas à côté d'un séjour inoubliable à l'hôtel Montville. Profitez de son emplacement idéal pour explorer toutes les merveilles que la ville a à vous offrir. Avec leur offre Restez plus et économisez, prenez le temps et bénéficiez d'une réduction sur les séjours de 3 nuits minimum. Retrouvez toutes leurs autres offres sur hotelmontville.com.
De retour au Radio Podcast sur la ligne, Alex Régimbal en votre compagnie. Hugues Léger et Nicolas Richard sont également à mes côtés. Et messieurs, je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado. On aura une transition vers la plateforme C23 de Cogeco parce que c'est notre nouveau partenaire. On en est bien fiers, comme on en parlait en début d'épisode. Messieurs, je veux qu'on revienne rapidement là, sur ce qui s'est passé dans la dans les deux dernières semaines d'activité. On parlait de Nadal tout à l'heure qui a fait un quart de finale à Brisbane. Ben, dans ce tournoi-là, c'est Grigor Dimitrov qui l'a emporté. Ça, moi, je trouve ça intéressant parce que Dimitrov, ben, il a eu une bonne fin de saison et il commence du bon pied. Et honnêtement, ce sera un joueur qu'il faudra peut-être regarder du coin de l'œil là, en Australie, Hugues.
Première victoire depuis 2017 pour Dimitrov, un des plus beaux joueurs du circuit. Très beau revers à une main. C'est un peu un genre de Federer en termes de style de jeu. Et c'en est un qui avait très bien terminé 2023. On le revoit en forme en début 2024. Très content aussi là de voir Dimitrov avoir une deuxième phase de carrière si intéressante, pardon. Et oui, il sera effectivement à surveiller à l'Open d'Australie.
Ça va être intéressant de voir ça. Du côté des femmes, on a eu toute une finale aussi du côté de Brisbane parce que c'est Rybakina contre Sabalenka. C'est un copier-coller là, des gros canons qu'on a vus l'année passée. Alors, je pense que c'est un début de saison là, qui va ressembler étrangement à ce qu'on a vu l'année passée. Alors, si le passé est le garant de l'avenir, là, il n'y aura pas de trop de changements au sommet du tennis parce que en plus, du côté de Auckland, ben, c'est Coco Gauff qui l'a emporté, la championne en titre des internationaux des États-Unis. Elle non plus n'a pas trop perdu de temps pour l'emporter. À Hong Kong, il y a Rublev qui a gagné également un autre titre à Adélaïde. On a vu Ostapenko contre Kazakhina. Et Hugues, je sais que toi, tu vas la garder à l'œil, Ostapenko. Là,
c'est une joueuse qui peut battre les meilleurs. Elle est plus en forme. Elle a perdu du poids dans les dernières semaines. Ostapenko peut déranger toutes les joueuses du top 10.
Ouais, je vous parlais du tournoi de Auckland. Ben, il y a Alejandro Tabilo, qui est un Chilien, mais qui est également un Canadien d'origine. Il aura remporté ce titre-là à Auckland. Voilà, ce sont les champions là des dernières semaines. Je veux peut-être mentionner, par contre, rapidement, parce qu'on va parler de ce qui se passe en Australie. On va regarder les matchs à venir et ce que les Canadiens feront. Mais il y a un joueur dont on n'a pas parlé, d'ailleurs, qui vient de l'Australie, Alex de Minaur. Il a fait la Coupe United, il a déjà des résultats particulièrement probants puisqu'il a battu Zverev, Djokovic et Taylor Fritz. Il n'a perdu que contre Cameron Norrie dans ce tournoi-là. Je veux dire, c'est des méchants gros canons qu'il a battus. Ouais. Est-ce que Dominor pourrait être une carte cachée, selon vous, en Australie alors qu'il joue à la maison en plus?
Absolument. Dominor qui est à la 10e position du classement ATP en ce moment. Tombeur de géant en début d'année, là, quand même. Il n'y a pas grand monde qui peut se réclamer tombeur de Novak Djokovic. Et il le fait de très, très belle façon. C'est un excellent relanceur. Il joue chez lui, évidemment, en Australie. Donc oui, Alex Dominor pourrait surprendre dans ce tableau à Melbourne.
Nico, est-ce qu'Alex Dominor peut être un chien dans un jeu de quilles en Australie?
Il pourrait être un trouble fête. Mm. Et où est-ce que son ascension a commencé, les gars? À Toronto, au Canada. Rappelez-vous, tournoi fantastique. Les seules limitations, je pense, de Dominor, oui, c'est un mur en défensive. Il retourne toutes les balles. Et Gabriel Diallo l'a dit, plus tu lui envoies fort, plus elle revient vite, la balle. Mais je pense que sur le plan offensif, il y a du travail à faire pour Dominor, mais la saison est encore jeune. Là, il entre dans une nouvelle catégorie, c'est-à-dire dans le top 10, va aller plus loin dans les tableaux, va affronter de meilleurs joueurs. Donc, je pense que c'est de l'adaptation, c'est du développement, c'est du progrès, mais il est déjà sur de très bonnes bases.
Et je vous pose une question tout de suite, puisqu'on on y est et puis qu'on est bien rentré dans l'Omnium d'Australie. Est-ce que Novak Djokovic perd tranquillement son aura d'invincibilité? Je m'explique. Deux défaites contre Sinner en deux semaines en fin de saison passée. Il perd contre Dominor. Ça a été compliqué contre l'EHK dans ce tournoi de la Coupe United. Est-ce que Novak Djokovic commence tranquillement à plier, messieurs?
Ben, c'est drôle, hein, parce que comme il a perdu un set aussi dans son match d'entrée à Melbourne, il dit qu'il se sent, regarde, il se sent pas très bien, il est peut-être pas au niveau santé à 100%. C'est pas des commentaires qu'on aime entendre aussi, ça. Donc, est-ce qu'il se trouve déjà un peu
une excuse pour la suite ou il joue encore sur une carte là où il va faire peut-être douter un peu ses adversaires qui vont le prendre plus à la légère. Mais effectivement, Djokovic, en 2024, selon moi, va être challengé. Sinner, on le sait, est prêt à battre les meilleurs. Il a battu Novak Djokovic deux fois en deux semaines en fin de saison. Alcaraz a battu à Wimbledon, évidemment, Djokovic. Donc oui, je pense que Djokovic sera vulnérable en 2024, bien que c'est encore le premier prétendant pour la plupart des grands chelems.
Intéressant. Nico, est-ce que Novak Djokovic, à la lumière de ce qu'on a vu en fin de saison, quoi que je dis ça, puis il a remporté quand même les finales de l'ATP, là, mais est-ce qu'on a... C'est juste qu'on n'est tellement pas habitué à le voir perdre. Est-ce qu'il commence à plier selon toi?
Je te répondrai, Alex, par une prédiction. Et tu peux le prendre en note, le 39-27 dans le timeline.
D'habitude, tu n'es pas très bon dans ces choses-là, alors je vais le prendre en note pour pouvoir le ressortir.
Novak Djokovic remportera le Grand Chelem doré, les gars.
Ouh!
Hey, on commence la saison fort, les gars.
On
prend ça en note.
C'est l'année pour le faire. Oui, ça commence peut-être un peu de manière périlleuse, mais c'est Djokovic, les gars. Il va se replacer. C'est du momentum. Il prend du bon temps en Australie. Va finir par gagner l'Australie, j'en suis convaincu. Le plus grand champion de l'histoire de ce tournoi-là. Il sait comment faire. Les gens vont commencer à le prendre un peu plus à la légère. Ah, il est fragile. Ah, c'était compliqué dans les premiers tours. Gagne des matchs en 3-7. Même chose à Roland Garros. Ce sera la fête à Nadal. Djokovic sera là. Les Olympiques, sa dernière chance. C'est l'heure assurée. Wimbledon, il est maître sur gazon. Le tournoi est à lui. Finir la saison avec un grand chelem à New York, les gars. C'est pas, la recette, elle est simple.
Nico.
La recette, elle est simple.
Nico, je t'avais dit que je voulais des quotes en début de saison. Tu viens d'en sortir. Là, juste être sûr que j'ai bien compris ce que tu me dis. Là. Novak Djokovic va remporter l'Australie, Roland Garros, Wimbledon, les Jeux Olympiques et l'US Open.
C'est sa dernière chance pour le faire. Il le fera parce que c'est le plus grand joueur de l'histoire de ce sport.
C'est certain que le fait qu'il a manqué son grand chelem calendrier en 2023, il doit l'avoir en travers de la gorge encore. Il y a peut-être, c'est sa dernière fenêtre pour le faire et c'est certain que le Grand Chelem doré, c'est une motivation supplémentaire parce que c'est une rareté d'accomplir ça. Donc, et puis on sait, la motivation principale de Djokovic aujourd'hui, c'est de réécrire les livres d'histoire et de devenir un intouchable et que plus jamais on puisse questionner le fait de qui est le plus grand de tous les temps. Là, il veut aussi accrocher ce fameux 25 qui l'amènerait devant Margaret Court qui est à 24 et son égalité, bien que je crois que le 24 de Margaret Court a un peu moins de valeur parce qu'il y avait un côté amateur à l'époque. Là, c'était pas que des matchs professionnels qu'elle avait gagné Margaret Court à l'époque. Mais Djokovic va tout faire pour accomplir. C'est certain qu'il l'a dans sa mire, Nico. Je suis d'accord avec toi. Mais ce qu'il va l'accomplir, je serais pas prêt à parier là-dessus aujourd'hui.
C'est juste que je pense qu'à ce stade-ci, le rang au classement ne l'importe plus. Il est numéro un. Je pense que s'il glisse deux ou trois, c'est pas la catastrophe. Puis je reviens à ce qu'on a dit sur Nadal. Je pense qu'il serait prêt à choisir ses tournois, quitte à jouer moins, parce qu'on sait que Djoko, lorsqu'il est en santé, il joue. C'est un gars qui joue énormément, mais je pense qu'il est dans un stade où il pourrait choisir ses tournois pour arriver frais et dispo dans les tournois du Grand Chelem et aux Olympiques. Ce sera une saison compliquée sur le plan du calendrier. J'ai hâte de voir comment son équipe et lui vont gérer la situation. Mais l'objectif, il est simple pour lui. Hugues l'a dit, marquer l'histoire, enlever tout soupçon, devenir le plus grand. Et avec un grand chelem doré, je pense que ça confirmerait le statut de GOAT pour Novak Djokovic.
Bon, c'était pas prévu, là, puis j'étais pour en parler peut-être plus la semaine prochaine, mais là, Nico, tu nous forces la main. Hein. Est-ce que Novak Djokovic va cette année d'abord battre le record pour le plus grand nombre de titres sur le circuit de l'ATP? Moi, je pense pas que ça se fait cette année. Je pense que ce sera l'année prochaine.
Mais là, il y en a combien présentement?
97.
97.
Ouais.
Le record est de 100...
109.
109. Une main dans le dos, Alex.
Jimmy Connors.
Main dans le dos, Alex.
Tu penses qu'il gagne 13 titres ou à peu près cette année?
Non, comme je te disais, je pense que ce sera plus une question de grand chelem cette année. Le nombre de titres, je pense un peu comme toi, là, que ce sera plus l'an prochain, parce qu'il y a des tournois qu'il va choisir, peut-être même des Masters 1000 qu'il pourrait sauter pour arriver plus frais et dispo dans certaines conditions. Je ne pense pas que le nombre de titres là, ATP de manière générale sera battu cette année. Parce que 102 titres, les gars, là, c'est assez exceptionnel. Disons-le. Là.
Ça y en prendra 9 là, pour. C'est pas impossible cette année. Moi, je ne pense pas que ça se fait cette année.
Alors, en partant, il y a 4 grands chelems. Fait qu'il va en rester 5.
Et puis, le titre aux Jeux olympiques qu'il va gagner selon toi. Alors, toi, t'es catégorie. OK, regarde, je suis renversé parce que tu viens de me dire là. Je vais faire un deal avec toi, Nico. Si Djokovic est en mesure de gagner le Grand Chelem doré au moment du US Open en septembre, toi et moi, on part. Toute dépense payée, c'est sur mon bras. Je t'amène à New York. On va faire demi-finale, finale ensemble.
Écoute, commence à réserver les hôtels, Alex. Regarde les meilleurs penthouses en ville.
On the record, toi et moi, on part. Oh, on peut inviter Hugues, tant qu'à faire. On peut inviter Hugues.
Si c'est toute dépense payée, je vais vous dire.
Ouais, mais là, la face, c'est que le deal est technico. Là. Mais,
puis, il sait que je ne mange pas dans les grands restaurants non plus. Fait que...
Une petite soirée. Là,
Au Scores américain.
Oui, ou j'allais dire, petit stand à hot dog là, à New York, là, ça va faire la job. Là.
excellent street food de New York.
Je te dis, je le pense, Nico, là, si il a gagné les trois premiers titres Grand Chelem et les Jeux olympiques, je t'amène au US Open s'il est en quart de finale. On part. Je m'en fous, là. On va trouver un moyen de se rendre. On va se trouver un hôtel. On dormira dans l'auto s'il faut, je t'amène.
Il va avoir Netflix et sur la ligne qui va suivre ça jusqu'au bout. Hein.
On dit ça, puis peut-être que Radio-Canada, peut-être que la presse va payer le voyage à Nico. Fait que c'est peut-être lui qui va m'amener.
Hugues, tu parles de Netflix. Imagine la trame narrative.
Aïe, aïe, aïe.
Ah, non, imagine si les caméras sont là et qu'ils le suivent toute l'année.
Mais il n'a pas participé encore, Novak. Hein. En plus, tantôt, tu parlais des noms. Là. Est-ce qu'on va se rendre à Marta Kotsouk? Mais Novak, il n'a pas été. C'est un peu comme Verstappen là, dans une des séries où il n'était pas. Là. Mon Dieu! Nico, ça commence fort cette année. Hey, si vous voulez bien, on va faire une autre courte pause et au retour, on tombe dans nos joueurs canadiens. On va regarder ce qui s'est passé et ce qui s'en vient pour nos Canadiens d'ici la fin du tournoi.
Si vous planifiez une escapade hivernale à Montréal, ne passez pas à côté d'un séjour inoubliable à l'hôtel Montville. Profitez de son emplacement idéal pour explorer toutes les merveilles que la ville a à vous offrir. Avec leur offre Restez plus et économisez, prenez le temps et bénéficiez d'une réduction sur les séjours de 3 nuits minimum. Retrouvez toutes leurs autres offres sur hotelmontville.com.
De retour à Sur la ligne, radio podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Enfin, on va regarder ce qui va se passer du côté des Canadiens et ce qui s'est passé. On va commencer, Hugues, si tu le veux bien, avec Félix Auger-Aliassime. Son année a bizarrement parti à Oakland avec une défaite à son premier match, un match de deuxième tour contre Altamayer. C'était de quoi déjà nous inquiéter parce qu'en plus, il s'était retiré de la Coupe United et là, il a remporté son premier match et ça a
au
tout
bout
pris
de
pour...
la nuit.
Ouais, au bout de la nuit, ça a tout pris pour battre Dominic Thiem ce matin. Là. Que penser de ce début de saison de Félix Auger-Aliassime et à quoi s'attendre? Je regardais son tableau, ça va être compliqué, puis pas à peu près.
Et bon, ben victoire en 5-7, match d'une durée interminable. donc, Auger-Aliassime qui joue comme Dominic Thiem, on le rappelle, qui est un vainqueur de Grand Chelem, multiple Grand Chelem. Mais le Dominic Thiem de 2024, c'est pas le même que celui de 2018. Victoire extrêmement difficile à l'arracher, 6-3 au 5e set. Je dirais un premier tour à l'image de ceux qu'on voit souvent de Félix Auger-Aliassime. Il a de la difficulté à passer ses premiers tours. La bonne nouvelle, c'est qu'il l'a passé celui-là et que souvent, il prend en confiance par la suite. Mais bon, moi, je ne suis pas rassuré parce que Thiem, depuis quelques mois, galère pour gagner des challengers et se qualifie pour des 250. Donc, ce n'est pas une victoire contre un joueur en forme non plus. Donc, il faudra voir le match numéro 2 et 3 de Félix pour voir dans quel état il est réellement. Mais on s'est fait une sacrée frousse aujourd'hui. Gagne les deux premiers sets, perd les deux autres, mais réussit à s'en sortir 6-3 quand même au cinquième set.
Tu sais, Dominic Thiem a perdu contre un Rafael Nadal qui n'avait pas joué depuis 100 ans.
Exactement. Alors, n'oublions pas qu'un certain Gabriel Diallo, autour de la 130e position mondiale, a battu Thiem en challenger l'an passé aussi.
Voilà. Nico, comment sur ce début de saison de Félix Auger-Aliassime?
Je vais essayer d'entrer dans cette nouvelle année avec une nouvelle mentalité concernant Félix Auger-Aliassime. Je suis très sérieux, Alex. Dans la mesure où je pense qu'il faut commencer à réaliser que dans la manière de progresser dans ces tournois, Félix en arrache au premier tour.
Exact.
Je pense que c'est coché balancé. Puis je fais un parallèle avec le monde du football, les gars. Josh Allen, carrière des Bills de Buffalo, il est parmi sans doute les trois meilleurs corps.
mais c'est aussi celui qui fait le plus de revirements. Mais il faut le prendre comme il vient. Il fait des revirements, mais son équipe est quand même prétendante au grand titre. Félix, c'est un peu la même chose. Il est bon, il est talentueux, il a du potentiel, mais que voulez-vous? Les premiers tours, c'est compliqué. Donc, si on part de ce principe-là, de cette base-là, je pense que notre manière d'évaluer Félix va changer autrement. Ça a été compliqué. Il a gagné, que voulez-vous? Ultimement, c'est ce qu'on regarde. Le W à la fin, au bout de son nom, là, mm-hmm. Il y a un crochet au bout de son nom, ça veut dire qu'il a gagné. C'est compliqué, mais il le fait. Pour moi, en tout cas, je vais essayer, Alex, là, de partir de cette prémisse-là dorénavant pour chaque tournoi de Félix.
Hugues? Oui, la même chose. Moi aussi, c'est quelque chose qu'on a quand même remarqué depuis plusieurs années. C'est pas seulement en 2023 où il les perdait ses matchs de premier tour. On voit que les entames de tournois sont souvent compliquées pour Félix, mais quand il réussit à passer un tour, deux tours, il peut aller jusqu'en finale après. Donc, c'est pour ça que je réserve encore une fois mon jugement sur son deuxième match, qui sera contre le Français Hugo Grenier, modeste classement de 178e mondial. Ce match-là, Félix doit le gagner en 3-7 ou 4-7. C'est là qu'on verra si ça roule bien ou si la machine n'est pas encore tout à fait bien huilée pour Félix. Est-ce que son genou est 100% rétabli? On sait qu'il s'est retiré et de la Coupe Davis et de la United Cup. C'est parce qu'il voulait protéger ses blessures, évidemment. Donc, deuxième match, on verra où en est Félix. Donc, je réserve mon commentaire aussi.
Et c'est à peu près le seul match qui devrait, en théorie, être simple pour Félix Auger-Aliassime. Oui. Et encore là, tu l'as dit, Hugo Grenier, c'est pas la mer à bord nécessairement, a priori, avec un classement 178e mondial. Il a 27 ans. C'est un gars qui joue surtout des challengers, mais il s'est qualifié. Il va arriver avec du rythme. Dans ces qualifications-là, il a battu notamment Maxime Cressy, qui n'est pas un mauvais joueur du tout.
Gros serveur comme Félix, hein? Intéressant.
Et il a battu Muller en 5-7. Est-ce qu'il y aura de la fatigue après ce premier tour-là? Je pense que ça avantage Félix d'une certaine manière. Mais quand on regarde le tableau de Félix par la suite, attachez vos tuques. Parce que c'est Medvedev qui viendrait possiblement au troisième tour. Et il a une fiche de 0-6 contre Medvedev. Par la suite, c'est peut-être pas si mal. Tu as peut-être un Dimitrov, mais Dimitrov vient de gagner un tournoi, va arriver avec une confiance intéressante. Et on le dit, il a bien fini l'année. Et après ça, ce serait peut-être un Rune, un Hurkacz, un Alcaraz, un Djokovic, et ce sera pas simple. Et je regardais son tableau et j'avais pitié de son tableau. Je pense que Dimitrov, ça reste à sa portée, mais encore une fois, pas le meilleur timing pour affronter un gars qui vient de gagner un tournoi en début de saison. Là.
Exact.
Et s'il gagnait, les gars?
Non, mais ça se peut qu'il gagne.
Oui, ça se peut.
Ben, c'est ça, on parle de Félix comme s'il était un 208e. Il est capable de battre ces joueurs-là.
Absolument.
Est-ce que ce sera simple? Absolument pas. Est-ce qu'il est dans les meilleures dispositions de sa carrière? Absolument pas.
Mais il n'est peut-être même pas encore à 100% parce qu'on s'attendait à ce qu'il joue en début de saison.
Mais la question, c'est est-ce qu'il peut rivaliser avec tous les joueurs que tu as nommés?
Ah oui, ça oui.
La réponse est oui.
Oui,
ben, 100%. Ben oui, il pourrait très bien battre. Il pourrait gagner le tournoi. Il n'y a personne qui tombe en bas de sa chaise. C'est juste que à la lumière de ce qu'on a vu l'année passée, la fin de saison nous a rassurés, mais le reste de la saison, c'était en demi-teinte. Bon, intéressant pour ce commentaire sur Félix Auger-Aliassime. Un pour qui ça ne s'améliore pas, ou en tout cas, ce n'est pas un début de saison prometteur, Denis Shapovalov, Hugues, c'est déjà terminé lui aussi en Australie. Et puis, ça s'était terminé rapidement à Auckland aussi.
Oui, défaite en 3-7 dès le premier tour pour Denis Shapovalov. Moi, en fin de saison, quand on a fait le bilan, les gars, je me dis, on ne sait pas trop, même quand on va le voir jouer. J'étais même surpris qu'il reprenne si vite en début de saison, mais bon. Aucun résultat probant. Son classement chute sous la 100e place mondiale. Je m'attendais à le revoir, moi, sur un classement protégé, ce que visiblement il ne fait pas en ce moment. Donc, il veut revenir sur le terrain, mais bon, rien de très encourageant là, pour Denis en ce moment. Et comme on disait dans notre revue de l'année, bon, il s'est fiancé en 2023. J'entendais entre les branches que le tennis n'était peut-être pas la plus grande priorité pour lui durant la fin de saison. Interrogation pour la saison 2024 de Denis Shapovalov, dans mon cas,
en tout cas. En même temps, il est sorti pour dire ceux qui pensent que j'aime pas le tennis, ou c'est un peu ingrat de dire ça alors que j'ai sacrifié toute ma vie. Alors, il est quand même sorti publiquement pour répondre à ce genre d'accusation-là. Nico, début de saison, douteux là, pour Shapovalov, c'est le moins qu'on puisse dire.
Je pense qu'il aurait aimé arriver à Montréal pour la Coupe Davis avec plus de momentum parce qu'on sait que c'est lui qui sera le leader de cette équipe-là. Félix, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas du groupe. Chapeau sera le porte-étendard de cette équipe-là, du moins le meilleur joueur, là, disons les choses telles qu'elles sont. C'est pas simple pour Denis Shapovalov, mais écoutez, que voulez-vous qu'on fasse? Ça se répète un peu tournoi après tournoi. Comme Hugues aussi, là, j'ai été surpris de le voir revenir si tôt en grand chelem, qui plus est. Défaite sèche, là. Ça n'a jamais été serré, les gars. Mm. C'est un peu inquiétant, disons les choses comme ça.
On va revenir sur de quoi on s'attend de ces joueurs-là la semaine prochaine, parce que déjà cette semaine, on a beaucoup de matériel. Milos Raonic, messieurs, terminé au premier tour contre Alex Dominar. On en parlait un peu plus tôt cette semaine. C'est peut-être un des joueurs les plus en feu sur le circuit en ce début de saison. C'est retiré. Est-ce qu'on s'inquiète pour lui aussi, Nico?
Il faut s'inquiéter, les gars, parce que l'Australie, c'est le premier tournoi de l'année. Mm. Si ça avait été en juin, juillet, on aurait pu dire « Ah, il y a l'usure, il est fragile, il a beaucoup joué. » Lorsqu'on arrive en Australie, on est supposé être à 100%. On est supposé commencer l'année sur les chapeaux de roue, confiant et en santé. Et là, Milos, je comprends, là, c'est Dominar, puis il s'est quand même bien débrouillé là, dans les premiers instants de ce match-là. Mais c'est le premier match de la saison, les gars. Comment est-ce qu'on peut être abîmé en commençant la saison? Pour moi, c'est hautement inquiétant pour Milos Raonic.
Ben moi, j'ai aimé qu'il gagne le premier set déjà. Oui. Un set à l'image de Milos. Donc, il remporte 7-6 au tie-break sur un pointage de 8-6 contre un des meilleurs retourneurs relanceurs du circuit. Donc, c'était un premier set encourageant contre un des joueurs en forme du moment, comme on l'a dit plus tôt, Alex Dominar. Donc, mais après, bon, ça s'est compliqué assez rapidement. Là, il s'est retiré au début du troisième set. C'était 2-0 pour Dominar. Mais effectivement, question pour le reste de la saison. Mais moi, je suis content qu'il soit allé en Australie. On savait qu'un des éléments qui bloquait un peu Milos depuis quelque temps et qui lui faisait se questionner sur la suite de sa carrière, c'était les voyages, justement, et le lourd calendrier du circuit. Il a décidé de commencer la saison en Australie avec tout le monde. Il m'a dit, bon, OK, il a envie de jouer, il est parti. On saura assez vite là, si c'est une blessure importante. On sait qu'il n'est pas de l'équipe de Coupe Davis là, qui sera à Montréal dans deux semaines. Donc, souhaitons qu'il se repose bien et qu'on le revoie là, dans le cadre du Sunshine Double un peu plus tard là, au printemps.
On ne s'étirera pas trop, messieurs, sur Bianca Andreescu, puisqu'elle elle n'est pas du tournoi. Elle s'est retirée une fois de plus blessée. Je pense que ça ne surprend personne. Est-ce que c'est, je ne sais pas si inquiétant, c'est encore le bon terme, là, je ne sais pas. Des fois, je suis à bout de mots ou à je ne sais plus quoi penser. Nico, pour Bianca, là, qui
fracture de stress. Ce que j'en comprends, puis de ce que je sais comme information, c'est qu'elle reprend tranquillement l'entraînement. Est-ce qu'elle va à son rythme? Est-ce que c'est un rythme imposé? Dur de savoir ce qu'elle envisage. On est vraiment dans une espèce de statu quo là, de veut-elle rejouer rapidement? A-t-elle ces sensations-là? A-t-elle ce désir, ces motivations de revenir? Va-t-elle attendre dans le swing américain là, à Miami Indian Wells où elle fait toujours bien?
Ouais.
Pour revenir, c'est extrêmement compliqué et complexe comme situation, surtout qu'il n'y a rien qui émane de ce dossier-là. On ne sait pas, est-ce que la blessure guérit? Est-ce que l'entraînement, c'est simplement pour se maintenir en forme ou vraiment s'entraîner pour revenir au niveau? C'est très, très dur de juger présentement.
Très peu d'informations du clan de Bianca Andreescu. Donc, ça sera un dossier à suivre dans les prochaines semaines. Mais il faudra voir où elle se situe. Est-ce qu'elle veut continuer? C'est une fille qui a encore beaucoup de possibilités. Elle est jeune. Elle a quoi, Bianca? Elle a 24, je crois. Donc, il reste du temps à Bianca Andreescu, mais il faut qu'elle revienne au jeu, là, pour voir ce qu'il y en est, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué de son côté là, depuis presque un an maintenant. On se souvient, elle avait eu une bonne séquence dans Sunshine Double au printemps passé. Blessure au pied, comme tu l'as dit, Nico. Bon, elle a 23 ans seulement, j'ai dit 24, c'est 23. Elle est toute jeune encore. Il reste encore 2, 3, 4 bonnes années sur le circuit, mais il faut qu'elle recommence à jouer. Mais on ne sait pas aujourd'hui.
Mais les gars, dans son cas, la patience a toujours été salutaire. Souvenez-vous, là, il y a deux ans, lorsqu'elle est revenue à Stuttgart, ça avait été tout feu, tout flamme. L'an passé, revient de plusieurs semaines d'absence, mémoire est bonne, revient à un très haut niveau. Donc, si elle peut attendre, ne pas se brusquer, ne pas se bousculer pour faire un Milos d'elle-même, c'est-à-dire se blesser à son premier match, Le passeur a prouvé que la patience avait été salutaire dans son cas, puis je pense que c'est encore la stratégie.
Mais oublions pas, les gars, son dernier match, c'était où? C'était à Montréal. Au mois d'août. Ça fait une demi-année, là. Ça fait 6 mois. Ça fait beaucoup, beaucoup de temps sans match de compétition. Donc, le temps passe pour Andreescu quand même.
Une qui nous impressionne depuis, notamment à Montréal, entre autres, c'est Leila Fernandez. Elle a, en dépit de cette défaite-là à la Coupe United ou de cette sortie rapide du Canada, elle a été excellente. Elle a gagné son match de premier tour. Commentaire, Hugues, avant qu'on passe à ses commentaires après son premier match. Bon.
Je reviens sur son entre-saison. On a été chanceuse de l'avoir beaucoup à Montréal ici. On a pu lui parler, Alex. Moi, je l'ai eu sur les terrains avec mes équipes de tennis Montréal. Elle a joué avec nos jeunes du sport études de l'académie, avec sa sœur Bianca, d'ailleurs. Son papa, Jorge Fernandez, était sur le terrain aussi. Je pense que ce retour aux sources a été salutaire pour Leila. Elle nous a dit, et Jorge nous disait aussi, qu'elle avait un peu perdu son identité à quelque part en 2023. Elle est revenue retrouver un peu ses origines aussi, ce qui a fait la championne qu'on connaît aujourd'hui, finaliste du US Open, il faut le rappeler encore. Elle aurait pu aller en Floride au chaud, non, elle a couru sur le Mont-Royal à moins 5 degrés, et je pense qu'on voit une Leila qui a le couteau entre les dents et qui est prêt pour une grande saison 2024.
Nico?
Lorsqu'on parle à Guillaume Marx et Noël Van Lottum, la nouvelle de Sylvain Bruno, ça m'a un peu ébahi et étonné la confiance qu'on a envers Leila. Rapidement, lorsqu'on leur demande leur objectif pour Tennis Canada cette année, c'est surtout les tournois par équipe. Coupe Davis, Billie Jean King Cup et les Olympiques. Mais rapidement, le premier nom qui vient en tête de ces gens-là, c'est Leila. Leila va bien, elle a bien fini, on a des attentes. C'est pas un désaveu, je pense, envers Félix et Bianca. Je pense que c'est vraiment qu'on comprend présentement que Leila, elle est dans de bonnes dispositions, qu'elle joue comme une finaliste au Grand Chelem, qu'elle est à la portée du top 20 et qu'elle peut battre n'importe qui. Présentement, Tennis Canada fonde énormément d'espoir sur Leila, avec raison.
Les gars, rappelons qu'elle a battu la championne en titre de Wimbledon, Markéta Vondrousova, en Billie Jean King Cup. Donc, elle a des résultats probants depuis 3 mois, Leila Fernandez. Elle pointe à la 35e position. Elle a remonté au classement de manière vraiment spectaculaire depuis 6 mois, en fait, depuis toute l'année 2023. Moi, je m'attends à la revoir dans le top 20 rapidement, Leila. Puis effectivement, elle pourrait aller nous chercher quelques titres en 2024.
Elle a gagné son premier match en Australie. Je propose d'écouter ses commentaires après cette première victoire.
It was a tough first round match. Sauer, she's a very good young player. I haven't played many lefties, so it was a tough one. But I'm super happy that I was able to play some good points on important moments, and to be playing in front of an amazing crowd feels good.
You spoke a little bit earlier this season and late last season about some of the changes you've made during your preseason. Coming to the net, you were really successful there today. Is that a change you've made in your game, more net play?
Not really a change, but more having the guts to go to the net. Sometimes I lost the points, other times I would win them. So I just got to keep going and have fun out there, because it's always fun being at the net and being able to finish a good point that way.
And we always love to hear from tennis stars what they do off the court. So what do you do for the rest of the day? I know you're into true crime. You do enjoy that. So what does the rest of the day look like? A bit of true crime tonight at dinner? What do you get up to?
First I'm going to recover, but then afterwards I'm probably going to watch a show called Reacher. It's a pretty good one. And maybe I'm going to crochet a little bit. I love crocheting.
All right.
On est là, qui est toujours tellement sympathique en entrevue. Bon, elle était satisfaite de son premier match. Elle a une fois de plus remercié la foule comme elle le fait systématiquement. Hugues, je sais que la question qui t'a intéressé, c'est celle sur sa nouvelle façon de s'amener au filet. En tout cas, on a remarqué des tentatives au filet plus souvent qu'autrement. Et ça, c'est un changement parce que elle se campait sur la ligne de fond et ça lui a bien servi en fin de saison l'an passé.
Ben, Leila, une de ses grandes forces, c'est sa rapidité, c'est sa vitesse. Elle n'a pas un très gros gabarit. Elle coupe les angles, donc elle est bien à sa place. Son bureau, c'est sur la ligne de fond, effectivement, pour diriger ou rediriger les balles qui lui sont envoyées. Mais n'oubliez pas que c'est une très bonne joueuse de double, Leila Fernandez. Elle est 21e au classement du double à la WTA en ce moment. Elle a de très, très bonnes mains au filet. Elle est très habile, Leila Fernandez. Donc, quand elle se déplace sur le terrain et qu'encore une fois, elle coupe les angles, elle donne le rythme tactique au jeu. Elle va souvent compléter les points. Et quand elle joue avec confiance, elle le fait très bien. Elle est dans cette situation-là en ce moment.
Nico, dernier commentaire avant que je te laisse aller sur Leila Annie Fernandez.
Ce sera une bonne année, je pense, pour Leila, les gars. Tout simplement, elle va bien. Je pense qu'elle a le goût de jouer au tennis.
Ouais.
Elle est motivée. Tennis Canada l'encadre bien. Pourquoi ça irait mal?
Elle est en santé, elle n'a pas de blessure.
Ben voilà.
Ouais, voilà.
Ouais, je pense que sa fin de saison a été étincelante. Nico, je te remercie.
Et surtout, Alex, rapidement, je pense qu'il y a peu de gens qui l'attendent. Puis je l'ai écrit dans la presse. Pour moi, elle est la surprise, entre guillemets, de cette Australian Open. Parce qu'on l'a un peu perdu de vue dans les derniers mois, dernières années. Certaines joueuses, peut-être aussi, l'ont oublié. Et là, elle revient. Elle est d'aplomb. Elle est confiante. Attention à la Lavalloise.
Très bien dit, Nico. Je te laisse aller. Je sais que tu as des obligations professionnelles. Alors, merci, mon cher Nico. Puis, on se reparle la semaine prochaine.
Salut, messieurs.
Bye-bye.
Salut, Nico.
Hugues, nous, on va continuer avec Rebecca Marino. Quoi penser de ce début? C'est quand même qualifié, là. C'était déjà pas si mal. Mais contre Jessica Pegula, c'est compliqué.
Grosse commande contre la championne en titre de l'Omnium Banque Nationale, Jessica Pegula, la meilleure joueuse américaine en ce moment. Mais Rebecca, quand même, chapeau de se qualifier encore pour un tableau de Grand Chelem. Moi, je suis vraiment impressionné, encore une fois, qu'elle continue de se hisser dans des tableaux de 128 des plus gros tournois, année après année, Rebecca Marino. Donc, et on va la recevoir au podcast dès qu'elle aura terminé son parcours en Australie. On a eu quelques échanges avec son agent. On parlera à Rebecca, qui est une invitée régulière, une amie de l'émission, là. Mais je suis super fier pour elle. Puis, coudonc, elle pourrait peut-être surprendre une Pegula avec son gros service, son one-two punch. Fonctionne bien, coup droit, service suivi d'un coup droit gagnant, pourquoi pas? Mais bon, elle a une commande importante là, pour le deuxième tour.
Ce serait déjà mission accomplie qu'elle s'est qualifiée, ce serait encore plus mission accomplie s'il fallait qu'elle batte Jessica Pegula. Mentionnons aussi qu'elle a battu, Sebov à son dernier tour de qualification, mais Sebov s'est retiré. Là. Alors, on aurait peut-être pu voir une autre Canadienne. En fait, on est assuré de voir une Canadienne dans le tableau principal. Il y a Carole Jao également qui a gagné son premier match, mais qui a perdu par la suite. J'ai mentionné aussi que Gabriella Dabrowski et Erin Rutliff, les deux Canadiennes. Rutliff, elle joue pour la Nouvelle-Zélande, mais je rappelle que c'est une Canadienne. Elle a passé par le Centre national de tennis Canada. Les deux ont gagné le US Open ensemble et vont tenter de faire la même chose ici en Australie. Hugues, si tu le veux bien, on vient de faire le tour des Canadiens. Je vais passer la parole à Abraham Santerre qui nous a préparé un petit résumé de ce qui se passe avec les autres Canadiens autour de la planète tennis.
C'est maintenant le moment d'analyser nos Canadiens en action qui sont sur le radar, donc à l'extérieur des internationaux d'Australie, et il y en a beaucoup. On surveille notamment Vacek Pospisil, Liam Draxel, Cadence Brace et Anna Grubar. On va commencer avec celui qu'on connaît le plus, Vacek Pospisil. Il est déjà en Californie pour le Southern California Open, un Challenger 50 qui est tenu à Indian Wells, oui, et l'endroit où il y a le gros tournoi au mois de mars. Vacek est en ce moment 450e au classement de l'ATP. Les blessures l'ont empêché de progresser en 2023. C'était tellement difficile pour lui à grimper, on se souvient, avec les blessures et tout ça. Ça résume un petit peu son année 2023. Au tournoi d'Indian Wells, le favori est 199e au monde. Donc avec un Vacek Pospisil en santé, tout est possible. Plus au sud maintenant, il y a Liam Draxel qui est en action à Buenos Aires, en Argentine, dans un challenger de la même catégorie, mais sur terre battue. Le Canadien âgé de 22 ans pourrait affronter la deuxième tête de série au deuxième tour. C'est un Argentin qui est 174e au monde. Tout de même, Liam a le talent pour créer la surprise. On se souvient de sa victoire au Challenger Banque Nationale de Calgary de catégorie 75 en novembre dernier. Donc tout est possible aussi de ce côté-là. Au même endroit, il y a la Canadienne Anna Grubar qui joue elle aussi. On va surveiller son résultat là-bas. Et finalement, en Guadeloupe, il y a deux Canadiennes qui sont dans le tableau principal du W35 de Petit-Bourg. c'est Cadence Brisk qui est 8e tête de série du tournoi, donc qui pourrait quand même aller loin et accumuler un autre bon résultat. Et Isabelle Boulet aussi qui va y jouer. Boulet, malgré qu'elle pointe au 716e rang de la WTA, pourrait se rendre loin. On va se souvenir de la surprise qu'elle avait causée à Saguenay en se rendant en demi-finale du Challenger Banque Nationale là-bas, qui est un Challenger qui est de catégorie W60, qui avait lieu il y a quelques mois à peine en octobre. Donc on la suivra de près. C'est ce qui complète l'analyse de nos Canadiens en action qui sont sous le radar. On s'en reparle très bientôt.
Merci beaucoup, Abraham Santer, pour ta participation et ton résumé de ce qui se passe avec les autres Canadiens. Il en reste moins qu'il en restait, mon cher Hugues, on ne lâche pas. Je veux qu'on parle de quelques surprises à l'Omnium d'Australie. Peut-être mentionner que la championne de Wimbledon, elle est éliminée déjà. Elle a été sortie par l'amie préférée de Eugénie Bouchard, Yastremska. Peut-être mentionner que Anisimova également a battu Ludmila Samsonova. Alors, ce sont deux sorties là, rapides pour des joueuses qui sont intéressantes. On surveillait du coin de l'œil également le retour de Naomi Osaka. T'as pensé quoi du retour de Naomi Osaka? Elle s'en sort quand même pas si mal contre Garcia. Là.
Performance honorable quand même contre Caro Garcia, une des bonnes filles du circuit, bonne joueuse du circuit depuis 2 ans. Bon, elle est 16e favorite. Elle a descendu un peu au classement, Caroline Garcia. Mais victoire de 6-4, 7-6. Donc, 2-7 accrochés pour Naomi Osaka qui fait un retour en action dans son grand chelem. Hein. On sait que c'est une joueuse qui a très bien performé au fil des années en Australie. C'est la joueuse de l'Asie-Pacifique. Elle a beaucoup, beaucoup de commandites qui viennent de cette région du globe. Je crois qu'il y a 5 mamans sur le circuit qui sont dans le tableau des Open de l'Open d'Australie cette année, dont Naomi Osaka qui a eu un enfant cette année. Donc, c'est quand même une belle performance. On verra ce qui arrivera pour le reste de la saison. Elle semble être dans de bonnes dispositions, se dit plus relax qu'avoir un enfant, un peu changer sa perspective et ses priorités, et la rend un peu plus détendue face aux enjeux du tennis. Donc, c'est un résultat, disons, prévisible, cette victoire de Garcia quand même au premier tour.
Elle n'avait pas joué depuis le mois de septembre 2022. Évidemment, elle n'a pas joué en 2023. Ouais. Et là, elle nous avait titillé aux derniers internationaux des États-Unis, à savoir peut-être qu'elle allait revenir au jeu. C'est ce qu'elle a fait à Brisbane. Elle avait d'ailleurs aussi bien fait contre Pliskova. Elle a quand même bien fait également contre Garcia. Je pense que son niveau de jeu est quand même intéressant pour une fille qui n'a pas joué depuis un an et demi. Mmh. Et si elle peut être dans des bonnes dispositions, elle sera intéressante à suivre, Naomi Osaka.
Oui, puis bon, on sait que c'est une histoire qui intéresse beaucoup de gens quand même. D'ailleurs, notre collaborateur Ben Wattenberg vient de sortir un livre sur Naomi Osaka, si ça vous intéresse. Un impact qui dépasse beaucoup le tennis, la carrière de Naomi Osaka, donc à suivre.
Comme on est un peu hors séquence pour les matchs, parce que ça se dispute durant la nuit en bonne partie, là, on fera pas un trop gros tour des matchs à surveiller, mais ce que je veux mentionner peut-être, là, c'est qu'il y a tout un match de premier tour entre Swiatek et Sofia Kenin là, du côté des femmes, et puis ce match-là, la gagnante va affronter la gagnante de Collins contre Kerber. Alors, honnêtement, là, c'est un début de parcours peut-être un peu complexe là, pour Swiatek. Alors, elle devra trimer dur dès le début de son tournoi. Est-ce que ça l'affectera d'ici la fin du tournoi? Parce qu'elle est certainement une des favorites. Il faudra garder ça en tête, mais je ne veux pas qu'on s'attire trop non plus, à moins que tu voulais ajouter quelque chose.
Dans les matchs popcorn de demain, parce que c'est comme ça qu'on les qualifie, ces matchs-là qui ont un intérêt particulier, il y a un Gasquet-Alcaraz. Ça sera difficile pour Richard Gasquet, évidemment, contre le deuxième favori, Carlos Alcaraz. Et aussi, moi, je suis très curieux de voir le match demain qui va opposer Eubanks à Rublev. Donc, on sait que Eubanks avait connu un très beau
match de deuxième tour.
Quart de finale, exactement. Donc, contre André Rublev, des bons joueurs du circuit, 5e favori du tournoi en Australie. Donc, des matchs à surveiller.
Peut-être mentionner également que Ben Shelton a déjà battu Roberto Bautista Agut. Il reprend là où il a laissé, lui, Ben Shelton, avec la fin de saison qu'il a connue l'année passée. Déjà une grosse victoire, là. On sait que Roberto Bautista Agut est un joueur très difficile à battre, également sur dur. Alors, intéressant cette victoire-là. Dernier sujet avant qu'on termine l'épisode, mon cher Hugues, on en parle parce que ce sera à la maison. La Coupe Davis sera disputée au mois de février à Montréal. Peut-être un commentaire sur la mise en vente des billets et quel joueur
pourra-t-on voir si on se déplace au Parc Jarry?
Ben, les billets sont en vente depuis vendredi dernier. Faites vite, ça sera un petit central installé sur le terrain numéro 6 pour ceux qui connaissent le stade IGA. Non, je dis n'importe quoi, ça va être sur le terrain numéro 12. Ça va être sur ce côté-ci des deux rangées de terrain. Cela dit, c'est un beau central qui aura environ 3000 places. Et on pourra voir Gabriel Diallo, Chapovalov, on l'a dit plus tôt, Vacek Pospisil et Alexis Gallarneau. C'est une très bonne équipe quand même qu'on mettra de l'avant là, contre la Corée du Sud, évidemment. Donc, un tour qu'on devrait pouvoir passer normalement, mais venez en grand nombre. On sait que la Coupe Davis, c'est un des rares tournois où on peut encourager à gorge déployée tout le long de l'affrontement. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie là, lors de ces matchs-là. C'est toujours intéressant. Donc, et c'est la première Coupe Davis, premier match disputé par pays au Canada depuis 2018. Donc, profitons-en. 2-3 points.
Bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner de ce côté-là. Et c'est une occasion parfaite de voir de très près les Chapovalov, les Gallarneau, etc. Là, vous allez être encore plus proche que quand vous êtes sur le central durant le tournoi d'été. Hugues, c'est ce qui complète notre premier épisode de la 5e saison de Sur la ligne, saison qui se retrouvera sur les plateformes de C23, je le rappelle, notre partenariat avec Cogeco. Et comme ben, c'est la tradition et que Nico n'est pas là, je vais t'offrir le traditionnel mot de la fin.
Alors, bonne saison de 2024, mon cher Alex. Bonne saison de tennis à tout le monde et à la semaine prochaine.